Facilité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie d'appel sur l'actualité. C'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué, interpellé ces derniers jours. On va immédiatement vous donner la parole. Vous êtes nombreux au standard, nombreux d'ailleurs à nous appeler du Congo, Brazzaville, après l'inculpation hier de l'opposant Jean-Marie Mokoko. On vous en parlait un instant dans le journal. Je vous rappelle qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Christian, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, on vous écoute. Vous n'êtes pas surpris, vous, par cette inculpation ?
Ma réaction immédiate est de dire qu'elle intervient à bonne période, parce qu'à l'époque où il a fait l'objet des premières interpellations, je pense à titre individuel qu'il n'était pas, il n'aurait pas été opportun qu'il fût placé en détention préventive, pour la simple et bonne raison qu'il s'était présenté comme candidat. Que si par extraordinaire il avait été mis aux arrêts, même provisoire, l'on aurait pu penser qu'il s'agissait pour le gouvernement de la République du Congo d'un moyen d'écarter un adversaire coriace, si c'est le cas de le dire, mais les premières actions, n'est-ce pas, du ministère public avaient été entamées à ce moment-là. Oui. On a laissé naturellement se présenter comme candidat et on connaît le score qu'il a réussi à obtenir, celui de 13%. Il a été troisième à ces élections. Aujourd'hui, l'on ne peut plus, au regard de l'action que le parquet est en train de mener, dire qu'il s'agit ou il s'agirait d'une instruction à caractère politique. Non.
Donc pour vous aujourd'hui, le général Mokoko n'est pas un prisonnier politique. Les raisons invoquées, enfin en tout cas l'une des raisons invoquées pour expliquer son inculpation, elle vous semble crédible, à savoir donc cette vidéo compromettante qui est apparue sur différents médias au moment de l'élection présidentielle, une vidéo où on le voit préparer, on l'entend préparer, organiser un coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso. Des images, c'est important de le rappeler, qui datent de 2007, donc ce ne sont pas des images récentes. C'est une raison valable pour l'inculper ?
Naturellement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des moyens d'information. Grâce à ces réseaux sociaux, tous les Congolais ont pu voir qu'effectivement, comme vous le dites, il avait en 2007 participé, n'est-ce pas, à une réunion tendant à organiser un coup d'État. Aujourd'hui, il est à retenir que les délais ne sont pas prescrits, les faits ne sont pas prescrits. Vous comprenez ? Vous dites 2007, en matière criminelle, puisque les inculpations retenues sont celles d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre, il s'agit manifestement de faits criminels. En matière criminelle, la prescription est décennale. Bon, si vous parlez d'un début, n'est-ce pas, de période de prescription qui est celui de 2007, nous sommes encore en 2016, donc nous sommes dans la période au cours de laquelle la prescription n'est pas encore éteinte. C'est-à-dire que durant cette période, tout au moins jusqu'en 2007, à tout moment, le parquet peut diligenter contre intéressé des procédures.
D'accord.
C'est ce qui est en train de se passer en ce moment.
Alors, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Je rappelle que ces images tournées en 2007, à l'époque, le général Mokoko était conseiller du président Denis Sassou Nguesso. Hein, il était chargé des questions de paix et de sécurité à la présidence. Et à ce moment-là, si on en croit donc cette vidéo, il s'apprêtait à organiser un coup d'État. On va donner la parole à Jacques. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue, on vous écoute sur l'inculpation de Jean-Marie Mokoko.
Oui, mais moi je suis vraiment, je rigole, excusez-moi de rire un peu, parce que on est dans un gros théâtre. C'est vraiment, c'est un gros théâtre à ciel ouvert, parce que on ne peut pas nous expliquer que depuis 2007, les autorités congolaises n'étaient pas au courant de cette vidéo. Le général Mokoko l'a bien dit, que lui-même avait remis cette vidéo au président de la République, qu'il a quand même gardé conseillé pendant plus de 8 ans, 9 ans, et qui aujourd'hui, dès lors qu'il s'est proclamé candidat, qu'il a démissionné et qu'il s'est proclamé candidat contre le président Denis Sassou Nguesso, et cette vidéo sort et on en fait des trains-trains. Mais je veux vous dire, Juan Gomez, c'est que cela est Il faut que le régime en place de Brazzaville arrête de nous prendre pour des idiots. On sait très bien, et tout le monde le sait très bien, que le président Sassou Nguesso n'a pas gagné ces élections. Il ferait mieux de négocier avec ses opposants pour apaiser le pays plutôt que d'aller acheter des épouvantails.
Quand vous dites négocier avec l'opposition, est-ce que vous partagez l'idée soumise par Alain Mabankou, le romancier franco-congolais, qui a d'ailleurs rencontré cette semaine François Hollande à l'Élysée, et qui appelle lui à un dialogue sous le patronage de la communauté internationale, à une sorte de conférence internationale sur le Congo-Brazzaville, à l'étranger, donc l'organiser, pourquoi pas à Paris, dit-il, c'est une idée qu'il évoque, mais cette démarche, cette initiative de conférence internationale sur le Congo-Brazzaville, ça vous semble être une bonne initiative ?
Mais bien sûr, il faut apaiser le pays, Roi de Gomez, il faut apaiser le pays parce que ça ne va pas. Moi, je vis à Brazzaville, ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, quand vous êtes surtout dans les quartiers sud de Brazzaville, c'est pas possible. On n'arrive pas à respirer. Hier encore, je sortais des quartiers nord à une certaine heure, mais c'est pas possible.
D'accord, mais enfin, excusez-moi, ça ne va pas, c'est pas possible. En même temps, vous ne dites rien de concret, donc essayez de développer un tout petit peu, ou en tout cas d'argumenter.
Le pays va au ralenti, il y a des barrages de militaires partout, on fouille partout, je ne sais pas ce que l'on cherche. On nous a dit que c'était les ninjas qui étaient venus foutre la pagaille. On est allé pilonner dans le pool, l'armée a été incapable de nous ramener le pasteur Antoumi. Donc qu'ils arrêtent d'agiter des épouvantails. Qu'on pose pour une fois que le président Denis Sassou Nguesso soit sincère avec lui-même. Il sait qu'il n'a pas gagné cette élection, mais qu'il s'assied avec les autres acteurs politiques de ce pays pour apaiser le pays.
D'accord.
C'est ce qu'on demande.
Le message est entendu. Merci de nous avoir appelé, Jacques. D'autres auditeurs souhaitaient s'exprimer, mais on aura l'occasion, évidemment, pourquoi pas la semaine prochaine, de lancer un débat sur la situation au Congo-Brazzaville. On vous en parle depuis hier sur RFI. 34 personnes ont été retrouvées mortes au Niger, près de la frontière algérienne. 5 hommes, 9 femmes et surtout 20 enfants. 34 personnes qui, selon le ministère nigérien de l'Intérieur, tentaient de se rendre en Algérie et elles ont été abandonnées par des passeurs. Ces migrants sont très probablement morts de soif. Au standard, on a plusieurs réactions qui nous viennent justement du Niger. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous n'êtes pas surpris. Vous qui êtes sur place à Niamey, au Niger, vous n'êtes pas surpris par ce drame?
Je ne suis pas du tout surpris par ce drame, parce que c'est quelque chose qui était prévisible. Parce que ces immigrants passent par Niamey avant d'atteindre la ville d'Agadez. Et les autorités les voient, parce que Agadez, une fois que vous êtes à Agadez, vous les voyez, ils sont entassés dans des bicoques de 16 mètres carrés. Et quand ils quittent la ville d'Agadez pour aller pour joindre les frontières libyennes et la frontière libyenne et la frontière
algérienne. De plus en plus la frontière algérienne d'ailleurs, puisque au regard de la situation en Libye, les migrants préfèrent passer par l'Algérie. Et d'ailleurs l'Algérie est aujourd'hui devenue quasiment une destination obligatoire lorsqu'on souhaite rejoindre l'Europe.
Oui, Juan. Et je disais tantôt que les autorités les voient, parce qu'ils quittent la ville d'Agadez entassés dans des véhicules, une centaine, souvent 200 dans des véhicules. Donc moi je dis, à quoi sert notre autorité ? Parce qu'il faut endiguer le mal à la racine. C'est-à-dire, ce n'est pas les laisser atteindre la frontière pour qu'ils puissent mourir. Mais il faut endiguer d'abord le mal à la racine. Quand ils viennent à Niamey, alors qu'on sache où ils vont. Parce qu'ils prennent, ils passent par les sociétés de transport, tels que Rimbo, tels que la 3SDV ou bien autre. Donc moi je dis que l'autorité doit mettre un mécanisme pour pouvoir les freiner à partir de Niamey.
Mais encore faut-il que les autorités aient les moyens de freiner ces milliers de personnes, puisqu'il ne s'agit pas de centaines de migrants, ce sont des milliers de migrants qui, depuis 2-3 ans, arrivent clandestinement au Niger, en espérant traverser la frontière algérienne et remonter ainsi vers l'Europe. Donc il faut que l'Union européenne, par exemple, donne les moyens nécessaires aux autorités nigériennes pour faire face à cet afflux massif de migrants.
Non, mais peut-être je demanderais un appui de l'Union européenne. Mais c'est à nous d'abord de prendre nos responsabilités. Parce que à quoi sert notre police ? Parce que ces messieurs-là, ils passent pas inaperçus. Ils passent pas les sociétés de transport. Donc dès là-bas, on peut les freiner. C'est ça le drame.
Donc c'était la police nigérienne de freiner les migrants. J'ai un chiffre sous les yeux. L'année dernière, le Niger a vu passer 120 000 migrants et 60 000 depuis le mois de janvier, donc depuis le début de cette année. Il faut beaucoup de policiers tout de même, Abdoulaye, pour endiguer ce flux. Mamadi, vous êtes à Conakry. Bonjour.
Bonjour.
Vous souhaitiez également nous interpeller sur ce drame.
Effectivement, le phénomène d'immigration est très banal en Guinée. C'est une chaîne de la campagne à la ville et de la ville à la Méditerranée. Actuellement, nous assistons au départ massif des jeunes Guinéens vers le Niger jusqu'à la Libye. Et ce phénomène est en train de se développer actuellement parce que ces jeunes manquent d'espoir ici. Malheureusement, lorsque quelqu'un vient de l'Europe, investit ici, pour eux, c'est l'Europe qui est la dernière solution. Donc, ils sont souvent issus de familles très pauvres et qui manquent de tout. Ça les pousse à partir. Mais la responsabilité.
Et la tragédie, excusez-moi, la tragédie de cette semaine, cette macabre découverte, ces 34 personnes mortes près de la frontière algérienne, 34 migrants morts de soif, est-ce que vous pensez que quelque part, ça peut provoquer une sorte d'électrochoc auprès de tous ces jeunes Guinéens qui souhaitent fuir leur pays et tenter l'aventure?
Je pense que ça peut dissuader certaines personnes. Mais par contre, il y a d'autres, ils sont tellement déterminés à partir, à affronter, n'est-ce pas, l'expérience de la Méditerranée, qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, quelles que soient les nouvelles, sinon, ce n'est pas la première fois qu'il y a des drames, n'est-ce pas, dans le désert ou sur la mer. Mais ça ne les dissuade pas. Du tout.
Merci d'avoir appelé Mamadi. Merci également à Abdoulaye qui lui était à Niamey. C'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Bonjour Rodriguez.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Kinshasa en République démocratique du Congo où tout semble indiquer que le scrutin présidentiel ne se tiendra pas dans les délais constitutionnels, autrement dit avant la fin de l'année. Du coup, eh bien la semaine dernière, une grande partie de l'opposition congolaise est venue ici en Europe, plus précisément en Belgique, près de Bruxelles, et ses opposants ont mis en place une nouvelle structure qui s'appelle Rassemblement. Donc il y a une volonté au sein de l'opposition de s'unir, mais ce qu'on retient surtout de ce conclave, c'est que les opposants exigent le départ de Joseph Kabila de la présidence le 20 décembre à minuit, autrement dit le dernier jour de son deuxième et dernier mandat. Et vous comprenez cette démarche de l'opposition?
Oui, c'est une démarche qui est tout à fait légitime et logique, puisque vous savez, Juan, les élections devraient se préparer depuis que le président a été élu en 2011. Maintenant, là, on est à la fin de son mandat. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Donc, ça fait preuve d'un manque de volonté politique pour l'organisation des élections. Donc, nous pensons qu'après le 19 décembre, on ne trouve plus les raisons de les garder à la tête de la présidence. Il faudrait plutôt laisser la place à ceux qui pourront organiser des élections.
À qui alors? Parce que si vous dites, et si l'opposition dit le 20 décembre, Joseph Kabila ne doit plus être à la présidence, qui met-on à sa place?
C'est là maintenant l'importance d'avoir un dialogue politique franc entre l'opposition et la majorité, ensemble avec la société civile, afin de pouvoir choisir un leader qui pourra organiser des élections dans un temps raisonnable et qui soit accepté et par l'opposition. Et par la majorité.
Oui, enfin la majorité, en tout cas, elle a l'autorisation, le feu vert de la Cour constitutionnelle qui, je le précise, il y a quelques semaines, a tout de même dit que si l'organisation ne pouvait pas avoir lieu comme prévu avant la fin de la semaine, Joseph Kabila pourra se maintenir au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu.
Nous le savons tous que cette cour constitutionnelle est instrumentalisée par le pouvoir en place et donc ils ne pourront que prendre des résolutions en faveur du pouvoir en place. Selon leur interprétation, nous savons tous que cet article vise au cas où il y a des élections. Donc cela est applicable s'il y a des élections, alors il doit rester jusqu'à ce qu'on ait l'investiture d'un nouveau président. Mmh. Mais dès lors qu'il est incapable d'organiser des élections, il faudrait laisser plutôt la place à quelqu'un qui va organiser des élections.
D'accord, donc mettre en place une sorte de transition en attendant que tout soit prêt pour organiser cette élection présidentielle. Merci à vous de nous avoir appelé, Rodriguez, bonne journée à Kinshasa. Si nous parlions au football, allez, un sujet un peu léger tout de même pour terminer cette libre antenne, l'Euro de football, la prestation des Bleus, l'équipe de France qui a certes battu l'Albanie 2-0, mais ouf, c'était compliqué hein, pour les Bleus. Armel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de la Radio Mondiale ainsi que tous les combattants de la liberté.
Vous êtes à Paris, Armel, et vous dites mais arrêtons de s'acharner sur l'équipe de France.
Oui, je dis arrêtons de s'acharner sur l'équipe de France parce que on a vu presque tous les matchs du premier tour.
Bah,
le premier
oui.
tour a eu lieu, donc on a vu toutes les équipes. Aucune équipe aujourd'hui ne se dégage du lot. Aucune équipe ne satisfait les supporters, quoi. Donc, on a vu l'équipe de France. Je pense que l'équipe de France a le niveau de la compétition. Maintenant, il y a des petits manquements. Je pense qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, que la compétition va évoluer, quoi.
Enfin, voilà. Il y a des petits manquements, excusez-moi, face à l'Albanie, avec tout le respect que j'ai pour les footballeurs albanais, mais enfin, face à l'Albanie, on pouvait quand même s'attendre à mieux.
Oui, mais Juan, c'est de pas connaître le football. Vous vous rappelez les deux derniers matchs de la France contre l'Albanie. Donc, l'avant-dernier, ils avaient fait, je pense, un match nul, et l'autre match, c'était l'Albanie qui avait gagné. Donc voilà. Donc l'Albanie, c'est pas une petite équipe. Donc la majorité des équipes, ils se valent. Maintenant, là où il y a un petit bémol, c'est juste que on a des petites difficultés concernant l'efficacité. Il faut qu'on puisse améliorer ça parce que tout le temps marqué à la dernière minute, c'est un peu problématique. C'est là où je mets quand même un petit bémol. Sinon, les jeunes, ils sont là, ils sont au taquet, ils sont prêts à compétir et voilà quoi. Je pense que il n'y a pas à se faire. Nous avons nos chances. Nous avons nos chances pour arriver loin de la compétition. On a vu l'Allemagne. On a vu l'Espagne, on a vu l'Italie, bon, peut-être un peu l'Italie, et les autres, quoi.
L'Italie, excusez-moi, elle a été surprenante, l'Italie, hein. On la disait moribonde face aux Belges, qui étaient quand même les grands favoris de la compétition, et l'Italie a réussi à s'imposer. On voit bien que là, pour le coup, les Italiens ont de l'expérience, ils ont fait la différence face au Diable Rouge. Un mot tout de même, puisque vous nous interpellez sur l'équipe de France depuis maintenant, allez, un peu moins de 24 heures, il y a cette polémique autour du bras d'honneur de Pogba. Vous en pensez quoi, vous ?
Oui, bon, concernant le bras d'honneur de Pogba, je pense que la presse en fait trop. Elle en fait trop parce que c'est une image arrêtée. Donc, on peut interpréter ce mouvement de différentes façons.
Alors, c'est une image arrêtée pour vous, mais enfin, les médias belges l'ont diffusée, hein, cette image. Donc, on voit bien quand même que c'est un bras d'honneur. Donc,
bon,
on en fait
moi,
trop.
J'ai pas...
Quand
bon.
il semble se tourner vers la tribune où se trouvent les journalistes, où se trouve la presse, il fait un bras d'honneur, voilà, bon, on peut se poser des questions. Et est-ce qu'un joueur, quand on demande aujourd'hui le niveau voilà, de ce que doivent représenter et incarner les footballeurs, quand on voit un footballeur en pleine compétition faire un bras d'honneur, voilà, c'est pas ce qu'on attend d'un joueur de foot.
Oui, Juan, je comprends.
Bon, on va pas polémiquer, vous avez pas envie d'engager le débat là-dessus. Moi, c'était juste pour prendre votre point de vue et prendre la température au standard. Merci en tout cas à vous tous de votre fidélité. On sera de retour lundi, évidemment. Toute la semaine, on vous donnera la parole, vos questions à la rédaction, vos réactions sur l'actualité. D'ailleurs, lundi, nous parlerons de cette décision de la Fondation Mo Ibrahim de ne pas décerner son prix 2015 de la bonne gouvernance. C'est un prix qui est destiné à récompenser les anciens chefs d'État africains qui ont quitté leur fonction dans les trois dernières années. Eh bien, aucun des prétendants n'a convaincu. Et c'est d'ailleurs la cinquième fois depuis la création de ce prix en 2007 qu'il n'est pas attribué. Alors, comprenez-vous cette décision ? Êtes-vous surpris ? Comment percevez-vous la bonne gouvernance dans votre pays ? On en parlera évidemment lundi. Bonjour Claire Edon.
Bonjour Juan.